Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
On le disait en sommaire de cette deuxième partie du magazine Okapi Service, on va parler de la spoliation de terrain de l'État. Comment lutter contre ce phénomène? Nous l'avons dit, nous l'avons annoncé, nous avons avec nous dans ces studios le ministre national des Affaires foncières, le professeur Robert Mbunga. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ces studios pour parler de la spoliation de terrain de l'État. Comment lutter contre ce phénomène? Vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez poser des questions, vous avez des témoignages du cas de de terrain de l'État par rapport au coin où vous habitez, appelez au 081 890 6394 ou bien faites un SMS au 081 711 5001. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, l'exploitation de terrain de l'État, comment lutter contre ces phénomènes? Excellence, la première question, monsieur le ministre, la première question qui nous vient à l'esprit, quelles sont les dispositions légales par rapport au patrimoine foncier de l'État?
Ben, commençons d'abord par dire que la terre, toute la terre, est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Donc, personne ne peut s'attribuer le droit ou la capacité de pouvoir distribuer ou vendre ce qui ne lui appartient pas. Deuxième disposition, il y a dans cette propriété, ces droits de propriété de l'État, une distinction qui est faite entre, les terres qui sont du domaine public, c'est-à-dire toutes celles qui sont destinées à des usages publics, et les terres qui sont du domaine privé, c'est-à-dire celles qui peuvent faire l'objet de distribution, de concessions auprès de particuliers et de privés. Le problème que vous soulevez, celui de la spoliation des espaces de l'État, il se pose essentiellement dans nos milieux urbains, dans nos villes. C'est dans nos villes, en effet, que peut-être pour des raisons de poussée démographique, quand je prends Kinshasa,
oui,
lorsque les colons quittent la ville, nous sommes dans une ville de plus ou moins 400 à 500 000 habitants. Aujourd'hui, les estimations nous amènent à 12 millions d'habitants. Donc, il se pose un problème déjà d'habitat. Et comme malheureusement, nous n'avons pas, en tant qu'État, disponibilisé des espaces de façon prévisionnelle, n'est-ce pas, pour que ceux qui viennent en ville et qui veulent s'établir dans les villes aient des sites dans lesquels ils peuvent aller construire leur habitat. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que chaque fois qu'il y a un petit espace libre quelque part, nos concitoyens se disent, moi, je vais faire ma maison là-bas, moi, je vais faire mon activité là-bas. Et donc, c'est quelque part, il y a une responsabilité qui est celle de l'État du fait de ne pas avoir disponibilisé des espaces destinés à différents usages, comme l'habitat, comme l'agriculture, comme l'industrie. Si vous vous rappelez bien, Kinshasa, dans le temps, on savait que l'IMT du côté Kinkawa, c'était limité industriel. Donc, oui, c'était un site prévu pour accueillir les activités industrielles. De l'autre côté, c'était pas pour l'industrie, c'était pour l'habitat, n'est-ce pas? Et donc, nous devons revenir à cet aménagement, si vous voulez, de la ville, où nous mettons différents espaces à la disposition de nos concitoyens pour avoir l'habitat, pour avoir les activités commerciales, industrielles, pour avoir... C'est cela que nous sommes en train de faire maintenant,
oui,
sur instruction du chef de l'État, qui nous a dit de pouvoir, dans toutes les villes de la République, identifier et créer ce que nous appelons les réserves foncières. Ces réserves foncières, c'est si c'est destiné pour l'habitat, c'est ce que nous appelions hier lotissement, n'est-ce pas? Donc nous devons aujourd'hui être en mesure de créer des réserves foncières destinées à l'habitat, destinées aux activités agricoles, les mamans maraîchères, elles ne vont pas disparaître, n'est-ce pas?
Absolument.
Voilà, destinées aux activités industrielles. Vous le savez, par exemple, nous avons la zone économique à Maluku, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si un investisseur vient et qu'il veut installer une entreprise industrielle, nous n'allons plus lui dire non, vous pouvez aller vous mettre à limiter. Nous allons lui dire venez, nous avons une réserve foncière que nous avons constituée à Maluku, que nous appelons la zone économique spéciale.
Donc ça c'est
pilote de Maluku. Donc ça c'est par rapport au je soulève d'abord la responsabilité de l'État par rapport à l'absence de disponibilisation des espaces fonciers sur lesquels nos concitoyens doivent pouvoir faire leurs activités. Maintenant, nous venons à une deuxième cause, c'est les comportements de nos propres concitoyens. Prenez quelqu'un, il prend une parcelle, parce que c'est un quartier qui a été loti, je suppose, et on lui délimite une parcelle de 20 mètres sur 30. Et on laisse un espace devant qui est l'emprise, c'est-à-dire l'avenue ou la route, de 8 mètres minimum de largeur. Qu'est-ce que nos concitoyens font? Ils estiment que 8 mètres c'est de la servitude, c'est trop, et quand il construit, il prend ses 30 mètres, mais il prend encore 5 ou 6 mètres peut-être sur l'avenue, et c'est là qu'il va mettre sa clôture à lui. Ça, ce sont des comportements anarchiques, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par exemple. Vous avez suivi, elle n'est pas terminée, nous avons une campagne de démolition de toutes ces constructions anarchiques.
Les gens qui reviennent souvent, on va le voir après revenir encore,
monsieur. Oui, mais c'est ça qui est quand même impensable. Oui. Quand vous vous imaginez, d'abord, je dois le dire, c'est pas des gaietés de cœur que le gouvernement se met à démolir, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sait ce que ça coûte que de construire une maison ici. Ailleurs, personne ne construit sa maison lui-même, n'est-ce pas? Il y a des promoteurs immobiliers qui construisent et vous, vous allez en banque parce que vous êtes agent dans une entreprise ou fonctionnaire, avec, vous allez à la banque prendre un crédit qui vous permet d'accéder aux droits de propriété sur les maisons construites par les promoteurs immobiliers. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est chacun dans la poche. Il faut trouver 100 dollars, acheter quelques sacs de ciment. Bref, construire tout seul. Donc, on sait ce que ça coûte et les sacrifices que ça impose. Et donc, c'est pas des gaietés de cœur que nous pouvons, que nous sommes amenés à pouvoir réaliser ces démolitions.
Mais
on ne peut pas.
Généralement, on laisse ces gens faire des travaux, alors que c'est bien connu. C'est ça le problème. On les laisse faire des travaux.
Non, on ne les laisse pas faire les travaux. Je vais vous dire, dans la réforme foncière que nous sommes en train de mener, justement, nous avons prévu de pouvoir créer une sorte de police foncière, n'est-ce pas? Parce que, imaginez-vous, je ne peux pas me retrouver chaque jour dans tous les coins de Kinshasa. N'est-ce pas? C'est pas qu'on laisse faire, mais on n'est pas informé. Si la population déjà elle-même pouvait dire non, attendez, chez nous, dans tel quartier ou à tel endroit, les voisins sont en train d'occuper l'avenue, par exemple, ou d'obstruer l'avenue. En ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Bien entendu, nous sommes informés, nous envoyons nos services sur place et on demande à ceux qui font ces constructions de pouvoir arrêter. Si c'est en tête, on démolit, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est pas qu'on laisse les gens construire. Il faut tout de même se dire que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de pouvoir faire une prévention. Parce que justement, pour que nous soyons au courant que quelqu'un est en train d'occuper anarchiquement un espace de l'État, eh bien il faut qu'il construise justement, que enfin nous puissions voir. Mais si nous avions cette fameuse police foncière qui pourrait en fait faire un travail de prévention, apporter les informations au moment où ils se rendent compte que quelqu'un est en train de placer des tôles ou faire un début de travaux, à ce moment-là nous sommes informés et on vient et on dit, monsieur, stoppez, vous ne pouvez pas faire ça.
Monsieur pour le moment, on va poursuivre. On va poursuivre voilà. Avec vous. C'est une émission interactive. Vous, les auditeurs, appellent pour poser des questions. Nous avons déjà Sephorien Bidoya qui nous appelle de Kananga, dans les questions occidentales. On a Clément Zamenga qui est à Kinshasa et Ismaël Mupoui qui est à Lubumbashi. Vous voulez également intervenir sur ce sujet, spoliation de terrain de l'État, comment lutter contre ce phénomène? Appelez au 081-890-63-94. Nous avons dans ces studios avec nous le ministre national des Affaires foncières, le professeur Robert Mbunga, pour répondre à vos questions et préoccupations.
Vivre à Vera, la santé pour tous avec Vieux Goliath, Maman Petoto, Sinké et Faro. Vivre à Vera, pour découvrir les questions de santé de la reproduction, la promotion de la femme, des violences domestiques et d'autres thèmes tout en se divertissant. Vivre à Vera, le feuilleton de Population Media Center sur Radio Capi, le mardi soir et les jeudis soirs à 21h, le dimanche à 11h40 et à 19h40.
Sephorien Bidoya, vous appelez du Kananga dans les Kassa occidentales. Bonjour Sephorien.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Sephorien.
Oui, j'ai des petites préoccupations à poser à notre invité. Ici, les terrains de la SNCC, tout le long du rail, les gens, les individus ont essayé de construire, ont essayé de construire. Quand on a essayé de demander aux gens de la SNCC, ils nous disent que ce n'est pas eux qui ont spolié, qui ont été spoliés ces terrains-là. Et puis, si c'est l'État qui a le pouvoir de vendre ces terrains-là, pourquoi il a laissé les gens construire là-bas? Parce que ces terrains-là ont été laissés pour éviter des accidents, peut-être en cas de déraillement. Et puis, la deuxième question, est-ce que l'État a-t-il le pouvoir de vendre un terrain sur lequel une équipe de football s'entraîne? C'est ça mes deux questions. Je vous remercie.
Merci Sephorien Bidoya d'avoir appelé du Kananga dans le Kassa occidental. On revient ici à Kinshasa pour retrouver Clément Zamenga. Bonjour Clément.
Oui, bonjour.
On vous écoute Clément.
Je voulais un peu intervenir et poser des questions à son excellence.
Oui.
C'est au sujet du terrain qui est en face du stade de Tata Raphaël, l'archidiocèse. Ça a été vendu, oui ou non? Deuxièmement, au niveau du cimetière de Kassavubu, ça a été vendu, oui ou non? Troisièmement, je crois un terrain son excellence connaît très bien, c'est au niveau du CNPP, à côté de l'ISTEM, entre le campus et les moines, tout le long là, ça a été vendu, oui ou non? Parce qu'on a construit. Et on suppose que c'est un terrain de l'université de Kinshasa. Voilà mes trois préoccupations.
Merci Clément Zamenga d'avoir appelé de Kinshasa à Lubumbashi dans le Katanga. Ismaël Mupoi est en ligne. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Ngomokeva, bonjour à tous nos auditeurs.
On vous écoute, Ismaël.
Ok, ma première préoccupation, c'est un textile investi avec des branches. La première de savoir qui est l'État et qui est habilité de vendre un terrain. Et comme une remarque que je fais, c'est juste que du temps, on avait vu beaucoup d'espace. Et ce genre d'espace devait permettre, par exemple, au divertissement. On devait construire, par exemple, un marché. Mais à l'état actuel où nous parlons avec vous, c'est un genre d'espace sont vendus pour les stations d'essence. Et on a privé plus au-dessus de la liberté à la plupart des personnes qui se divertissaient et qui devaient passer un certain temps. Maintenant, la deuxième branche de cette question est celle-ci.
Oui.
Au titre d'exemple, on est en train de construire, par exemple, la ville de Lumumba. Quels sont les critères qui entrent en jeu et à combien de kilomètres après avoir fixé l'état de la construction de la ville pour lesquels les gens ou les champs peuvent être cultivés? En titre d'exemple, nous avons vu quand, par exemple, vous arrivez à Kisangani, à Chimbulu, à Likasi. Ce sont des villes belges. C'est-à-dire des villes, comment vous remarquez, par exemple, les avenues, ce sont les cités en dames. Vous regardez du coin à coin, c'est tiré au cordeau. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui pour que ce genre de conditions ne puissent pas encore être réunies avant de construire? La dernière préoccupation, c'est de savoir...
Oui, allez-y rapidement, oui.
Qui peut acheter un terrain et qui peut livrer encore les notes de la vente du terrain. Par exemple, nous avons l'urbanisme et l'habitat. Quel est leur rôle dans tout ce qui se passe, par exemple, pour la spoliation du terrain et construction anarchique? Merci beaucoup.
Merci Ismaël Mupoi d'avoir appelé de Lubumbashi dans le Katanga. On me fait signe qu'il y a un autre auditeur en ligne, on va l'accueillir rapidement. C'est Flavien qui appelle de Kinshasa. Flavien, bonjour Flavien.
Oui, bonjour monsieur journaliste.
On vous écoute Flavien, quelle est votre question?
Oui.
La communication n'est pas très très bonne. Flavien, vous êtes en ligne Flavien?
Oui, je suis en ligne.
Alors allez-y rapidement. Quelle est votre question, votre témoignage par rapport à ces sujets sur la spoliation de terrain de l'État?
Oui, en tout cas, pour moi, c'est une situation qui préoccupe, puisque la spoliation de terrain de l'État semble être quand même préoccupant, puisque ça concerne vraiment la vie et l'avenir de beaucoup de gens.
Oui, allez-y, puis, votre témoignage. Oui.
Des milieux universitaires.
Oui.
Les terrains d'université sont en train d'être exposés par les chefs coutumiers, aux vies de tous les autorités, sans qu'il y ait vraiment une réaction positive dans le sens d'interrompre ce genre d'action.
Voilà, merci Flavien. C'est par rapport au terrain universitaire qui est en train d'être expolié. Notre invité, le ministre des Affaires étrangères Robert Mbouinga, va en parler. On l'a vu même dernièrement faire une descente personnellement sur le terrain situé en face du CNPP. Monsieur le ministre, on revient à vous, mais on commence par cette préoccupation d'un auditeur qui nous a écrit. Je vais lire rapidement. Il vous demande ceci. Combien coûte un certificat d'enregistrement? Par exemple, une parcelle moyenne de 20 sur 20 à Mongafoula. Depuis 5 ans, je cours derrière ces précieux documents. Je dois y avoir laissé au moins 2 500 $. 3 agents du ministère des Affaires foncières m'ont promis mont et merveille sans jamais me remettre le fameux document. Le tout dernier en poste à Bien à Mongafoula m'a remis le certificat contesté 2 mois après par ses collègues pour numéros mesures parcellaires non conformes. On me retourne alors 200 $ pour recommencer. On me réclame encore 200 $ pour recommencer la procédure. Monsieur le ministre.
Bien, je pense que je vais inviter tous les amis à suivre chaque jeudi l'émission qui passe sur la RTNC vers 22h30 qui s'appelle Reporter. C'est une émission dans laquelle j'interviens pour apporter des réponses à des questions de nos concitoyens et également pour donner certaines précisions par rapport à la gouvernance foncière. Donc, j'ai déjà dit au cours de ces différentes émissions que pour le moment, le certificat n'a pas un coût qui a été fixé. Par contre, lorsque vous allez pour réclamer, demander d'avoir un certificat parce que vous avez construit votre maison, vous l'avez terminé, eh bien, il y a des frais administratifs qui sont prévus. Frais administratifs et techniques. Parce que pour établir les certificats, il faut que le géomètre se déplace, aille sur votre terrain, fasse les mesures, aide la parcelle et de la maison, et établit un croquis qui sera annexé à votre certificat. Donc il y a des frais qui sont prévus pour ça et qui figurent sur l'arrêté interministériel que je signe avec mon collègue de finances. Cet arrêté est envoyé dans toutes les circonscriptions et il y a une instruction du ministère qui demande que cet arrêté puisse être affiché afin que chacun de nos concitoyens qui se présente dans une circonscription foncière et qui cherche à avoir un certificat puisse regarder et savoir ce qu'il doit payer. N'est-ce pas? J'ai envoyé des missions des inspecteurs pour vérifier l'affichage justement de ces arrêtés parce qu'effectivement, les cas qu'il décrit, il est fréquent. N'est-ce pas? On n'affiche pas, donc on fixe le coût du certificat à la tête de l'individu. On se dit, ah lui, il est journaliste chez Okapi, donc il est payé en devise, et pour lui, ce sera 2000 et tout. Non. Mais j'ai également dit que dans la semaine ou dans les 2 semaines qui viennent, nous allons, le ministre délégué aux finances et moi-même, prendre un arrêté pour fixer le coût du certificat. À ce moment-là, effectivement, nous allons faire une grande émission pour que tout le monde comprenne quel est le coût du certificat. Et nous avons fait nous proposons de faire comme une sorte de guichet unique. C'est-à-dire que on ne peut plus demander à notre concitoyen qui vient chercher un certificat commencer par payer les frais techniques et administratifs ici, et puis aller payer les droits fixes d'enregistrement là-bas. Non, nous allons demander un paiement unique, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire que notre concitoyen sache que je dois payer autant ici, payer autant là-bas. Non, non. Donc, le montant qui sera fixé sera un montant unique qui doit être payé et personne ne peut demander autre chose que ce montant-là.
Ça va pour moi, il dit la population, voilà. M. le ministre. Alors, on revient aux questions évoquées par les étudiants qui ont appelé. Il y a Séphorien qui vit à Kananga, qui a parlé de la SNCC.
Oui.
Tous les terrains le long du rail est vendu. Il demande, mais qui peut vendre? Qui doit vendre ça?
Séphorien, je pense, pourrait se rappeler que j'ai été moi-même en personne à Kananga.
Oui.
L'année dernière. Et que parmi les problèmes qui m'ont été posés là-bas et pour lesquels j'ai apporté des solutions, justement figurent les constructions anarchiques les longs de rails, n'est-ce pas? Et j'ai dit qu'on ne peut pas autoriser ces constructions-là. C'est des constructions anarchiques. Personne ne leur a vendu ces terrains-là. C'est les gens qui décident parce qu'ils se disent, moi, j'ai les moyens de construire une maison ici à Kananga et je n'ai pas un terrain, je ne me présente pas auprès de l'administration foncière et il va y construire. Donc, j'ai déjà dit avec le gouverneur Kande que toutes ces maisons-là doivent être démolies. On doit laisser l'emprise de la voie ferrée libre, parce que effectivement, surtout à Kananga, c'est une gare importante. Donc, il y a de manœuvres qui doivent être faites. Je lui rappelle également que j'ai été là-bas aussi pour m'opposer aux ventes des terrains qui étaient en train de se faire le long de la piste d'aviation à Kananga, n'est-ce pas? Et qui était le fait malheureusement de la direction provinciale de la RVA, qui estimait que on avait suffisamment d'espace pour la piste et que donc dans les alentours on pouvait construire. Déjà du temps du gouverneur Lubaya, cette question s'était posée et on avait également détruit. Donc personne n'a le droit de vendre des espaces qui constituent des emprises des voies ferrées ou de la piste d'aviation ou ensuite l'État, j'ai dit, l'État, je le répète, ne vend pas la terre. L'État donne en jouissance par contrat de concession. Donc, quand j'entends dire « Ah non, j'ai acheté », mais ça veut dire que vous vous êtes adressé à quelqu'un qui n'est pas compétent pour distribuer la terre. Exactement. Vous vous êtes fait escroquer, en réalité.
Voilà, on revient à Kinshasa, monsieur le ministre. Il y a un auditeur qui a cherché à savoir le terrain Foulain, en face du stade Raphaël, serait-il vendu? Le CNPP, les gens sont en train de construire, serait vendu? Également le cimetière du Kassavubo, serait-il vendu?
Bien, je vais répondre à ces trois questions. Les premiers terrains en face du stade du VME, c'est le terrain de la Founa, n'est-ce pas?
Oui.
C'est un terrain où il y a à la fois la SNEL, une ONG AED, la Fondation Mama Antoinette Mobutu, et il y a un espace, un culte, que se dispute l'archidiocèse de Kinshasa et des sinistrés qu'on appelle le groupe ECAM. Ils sont allés en justice et c'est ce groupe-là qui a eu gain de cause.
Qui a gagné le procès.
Voilà. J'ai essayé, moi, de m'interposer dans ces dossiers-là, en dehors de mécanismes judiciaires, j'ai organisé des réunions dans mon cabinet avec la participation de toutes les parties prenantes. L'Église, malheureusement, a mal pris ça. On m'a même fait un procès d'intention puisqu'on a lu des lettres dans les églises m'accusant de spolier ces terrains. Je me suis dit, et je l'ai écrit à Son Éminence le cardinal Mosengo, je lave mes mains comme Ponce Pilate, je vous laisse faire les choses. Maintenant, je constate effectivement qu'il y a des constructions qui sont là. Elles sont les faits de qui? Je n'en sais rien. Et vraiment, je n'ai pas envie de me retremper dans ce dossier où on a voulu me salir.
Les cimetières de Kassavubu.
Les cimetières de Kassavubu, c'est la même chose. Et j'ai répondu dans une de nos émissions reporters. Il y a la descendance, pardon, du grand chef Lingala, qui revendique le droit de propriété sur ce cimetière-là et qui est allé en justice contre l'État congolais et curieusement
a gagné
encore contre l'État congolais. J'ai fait deux remarques. Un, l'État, la terre appartenant à l'État, le chef coutumier n'a pas qualité pour aller en justice contre l'État. Mais notre justice est ce qu'elle est. Deuxièmement, le cimetière, c'est un lieu public. Donc, toutes les terres, qui relèvent du domaine public ne peuvent pas faire l'objet de concessions. C'est la loi.
Malheureusement, ce jugement-là, il faut
que le gouvernement ou le ministère de la Justice puisse aller, je sais pas, en cassation ou quoi, parce que c'est un jugement qui est fait en violation de la loi.
Monsieur le ministre, je reviens à vous, le temps de prendre le tout dernier temps.
Il y a le terrain de l'ISTEM, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement que l'ISTEM, c'est les campus, c'est l'UPN, c'est partout. Et je voudrais dire à notre auditeur, j'espère qu'il a suivi, que moi-même j'ai été sur les lieux,
oui,
et que j'ai même, à un moment, été confronté au fameux chef coutumier qui fait ça, qui a même été arrêté parce qu'il est venu m'agresser. N'est-ce pas? Et je le répète, personne ne peut construire là-bas. Donc, comme je l'ai dit dernièrement, la délégation de syndicalistes de l'ISTEM et de l'UNIKIN qui sont venus me voir, nous avons déjà écrit au gouverneur de la ville province de Kinshasa pour qu'il prenne l'arrêté permettant la démolition de tout ce qui est construit sur ces sites-là.
Mais monsieur, par rapport au terrain de Kassavo, mais le fait d'avoir gagné le procès ne signifie pas d'avoir le titre de propriété pour construire à ces lieux.
Mais l'administration foncière n'a jamais donné un titre de propriété.
Mais c'est du désordre.
Mais vous savez, c'est la séparation des pouvoirs. N'est-ce pas? C'est la séparation des pouvoirs. L'exécutif, nous faisons ce que nous devons
faire.
Les judiciaires ou la justice fait ce qu'elle doit faire. Et malheureusement, dans ces circonstances-là, en fait, on est dans des situations de télescopage qui ne devraient pas avoir lieu. Si la justice s'était adressée à l'expert du gouvernement, qu'est le ministère des Affaires foncières, par rapport à la gouvernance foncière, eh bien, elle aurait compris, un, qu'elle ne pouvait pas recevoir des plaintes venant des gens qui n'ont pas qualité, et deux, qu'elle ne pouvait pas, pour un terrain du domaine public de l'État, accorder de droits de propriété.
Monsieur le ministre, on va prendre les derniers auditeurs en ligne, on va poursuivre avec vous sur ce sujet, spoliation de terrain de l'État, comment lutter contre ce phénomène. Nous avons Eddy Makoutima qui est à Matadi, Willy Sassa qui est à Kinshasa et Jean-Pierre Tounza qui est également à Kinshasa.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Eddy Makoutima, vous êtes à Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour Eddy.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur le ministre.
Allez-y directement, quelle est votre question?
Oui, nous sommes ici à Matadi. C'est chaque jour que nous vivons devant la situation de spoliation des domaines publics de l'État.
Oui.
Donc, ça nous dérange cette situation. Il y a même certaines personnes qui se permettent de construire sur les entreprises, les emprises de l'État.
Oui.
En lieu, à place des boutures, des échoppes, ils construisent des maisons d'habitation, y compris des fosses sceptiques. Alors, j'aimerais te poser la question, ministre. Ma question est celle-ci.
Oui.
Je demanderai au ministre de savoir si réellement, si la démolition n'est que réservée dans la ville de Kinshasa. Parce qu'à ce matin, il y a trop de cas d'expoliation. Eux aussi, devant la présence des autorités, que ce soit locales, provinciales et administratives qui vivent cette situation.
Merci Eddy Makoutima d'avoir appelé de Matadi dans les Bas-Congo à Kinshasa. Willy Sassa est en ligne. Bonjour Willy.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Avant que je ne pose ma question, monsieur le journaliste, si vous me le permettez, en tout cas, je voudrais d'abord dire que je suis triste après avoir suivi le ministre. Écoutez ce que le ministre dit. Notre justice est ce qu'elle est. Ici, il est question de séparation de pouvoir. Nous faisons notre travail et la justice ainsi de suite. Est-ce là un aveu d'impuissance ou d'échec ou la défaillance de l'État que les ministres consacrent ou de l'impunité. Parce que ce n'est pas possible que nous puissions assister, j'allais dire, que le gouvernement assiste impuissant devant des cas d'expoliation. Je vais donner deux exemples.
Allez-y rapidement.
Et après, les ministres disent non, ici où on est, c'est la justice, on sait ce qu'elle est. Ce n'est pas possible. Je pose quand même mes deux questions parce que j'ai comme l'impression que nous sommes là en train d'assister à un perpétuel recommencement. Lorsque on sait que dans ce pays, il y a eu à la CNS une commission qui a travaillé sur ces choses-là, il y a également existé ici l'OBEMA. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait des résultats de tous ces travaux-là? Et là, je pose une question claire. Le terrain de l'IFASIC qui a été spolié ici, à Kinshasa, les ministres étaient au courant ou pas? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que dans la plupart des cas, la spoliation, elle est faite de grands. Ce n'est pas les petits peuples. C'est vrai, les petits peuples peuvent, à certains endroits, tenter. Mais généralement, c'est de gros souliers.
Merci.
Pour ces choses-là.
Merci,
et donc,
Willy.
Le ministre est en train, peut-être, apparemment, de confirmer la défaillance de l'État.
Merci, Willy.
Je sais pas.
Merci, Willy, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre un autre auditeur en ligne, et ça sera le tout dernier. C'est Jean-Pierre Tunda, qui est également à Kinshasa. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci pour l'opportunité.
On vous écoute.
Je voudrais seulement rappeler à son Excellence, monsieur le ministre, qu'il habite le quartier Sebo à Mongafula. Mais il y a un rond-point qui est au croisement des avenues Joseph Kabila et Bisengimana qui vient d'être spolié et dont le dernier document administratif présenté, c'est un contrat datant du 26 septembre. Cette femme prétend avoir acheté le rond-point et la police doit déguerpir et ça met mal à l'aise tous les habitants du quartier. Qu'est-ce que le ministre peut nous promettre à propos?
Merci Jean-Pierre Tunza d'avoir appelé de Kinshasa. On va commencer directement par votre question parce que vous avez dit le ministre habite le même coin.
Jean-Pierre, bonjour. J'ai vu ta lettre.
Bonjour monsieur.
J'ai vu ta lettre adressée aux conservateurs, n'est-ce pas? Par rapport à ces terrains-là. Un, il est faux et archi-faux de dire qu'on a acheté ou qu'on a vendu les ronds-points. C'est faux. Il y a deux parcelles qui sont là, dont la vôtre, je pense, et le conteneur de la police n'est dans aucune de vos deux parcelles. Elle est sur ce qu'on peut appeler l'emprise. Et donc, j'ai donné des instructions précises à la circonscription foncière de Mongafula pour, un, sécuriser chacun des détenteurs d'un titre avec sa parcelle. La dame dont vous parlez est là. Sa parcelle, elle a son titre, on a le croquis, et on sait que ce qu'elle est en train d'essayer de faire, c'est du désordre, n'est-ce pas? On va la ramener à l'ordre en lui écrivant de se contenter de ce que sont les limites et les dimensions de sa parcelle, et ne pas chercher à faire autre chose que ce que l'État lui a concédé. Donc c'est pas une question qu'on aurait vendu le rond-point. Je passe par là moi-même. N'est-ce pas? Je m'énerve d'ailleurs très souvent parce que vous oubliez de rappeler, par exemple, que tous nos esprits de mort viennent là-bas la nuit. C'est devenu, comment on appelle ça, c'est là qu'ils viennent garer leur véhicule quand ils ont terminé le travail.
C'est
et ça met en danger nous autres qui continuons de circuler, qui rentrons à la maison tard ou qui sortons le matin. J'ai déjà dit à la police qu'il ne faut pas continuer d'accepter des véhicules qui se mettent le long de la route.
Et Edith Makoutima,
maintenant, je voudrais répondre à...
Qui dit qu'à Kinshasa, il y a les démocrations sur Kinshasa, pas dans Matadi, dans le
Bakongo. Non, ce n'est pas, c'est pas vrai. Si se rappelle peut-être, moi j'ai été par exemple à Boma et j'ai vu Madame le maire de la ville de Boma, à la suite de tout ce qu'elle avait reçu comme information de notre administration foncière, qui est allée et qui a fait les démolitions par rapport à des constructions anarchiques. À Matadi, c'est la même chose. Tout ce qui est construction anarchique doit être démoli, oui. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas attendre que ce soit le ministre qui quitte Kinshasa et qui se met sur l'ensemble de la République. Nous, ce sont les principes que nous énonçons et nous donnons à notre administration. Et cette administration est au service, disons, sous les ordres des autorités provinciales, des autorités, des entités administratives décentralisées. C'est à ce niveau-là que les décisions doivent être prises pour les démolitions. C'est pas le ministre qui doit signer des arrêtés tous les jours pour dire à Kananga on va faire ceci, à Mbujimayi on va faire ceci. Et nous, nous donnons les principes, quitte à ce que l'administration puisse les appliquer.
Avant de répondre à Willy Sassa, on va conclure par ça sur la défense de l'État. Oui. Si vous voulez bien répondre à Modeste Sadiki, qui a demandé, qui a la compétence de vendre le terrain à un étranger qui veut implanter son usine dans un village.
Personne n'a la compétence de vendre un terrain. Je répète que l'État ne vend pas les terrains. L'État concède le droit de jouissance sur les terrains. Lorsqu'on a un investisseur qui vient et qui veut avoir, par exemple, un espace foncier pour faire des activités agricoles ou des activités d'élevage ou tout, il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de l'administration foncière. Et nous avons des circonscriptions foncières sur l'ensemble du territoire. C'est à celle-là qu'il faut s'adresser. Et cette administration foncière, lorsqu'elle reçoit la demande de terre, elle va organiser, en ce qui concerne les terres rurales, parce que c'est prévu dans la loi foncière, il faut d'abord organiser une enquête de vacances pour s'assurer que il y a bien disponibilité de la terre, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, lorsque le PV d'enquête de vacances est concluant, à ce moment-là, on va signer un contrat de concession, n'est-ce pas, avec cet investisseur. Et c'est, je le répète, ce n'est ni le chef coutumier, ni le chef du village, ni le bourgmestre ou chef de secteur ou quoi, qui est habilité à pouvoir vendre la terre. La gestion de la terre dans la République démocratique du Congo relève de la compétence, je vais le dire, exclusive du ministre des Affaires foncières. Il y a des domaines dans lesquels le gouverneur de province peut intervenir, c'est connu, chacun sait jusqu'où il peut aller et les limites de ses compétences. Donc ce n'est pas, c'est le chef du village qui va vendre, non, il faut s'adresser à l'administration des Affaires foncières.
Alors on va terminer avec la question de Willy, ça sera la conclusion par rapport à l'aveu.
Je voudrais d'abord lui rappeler que faire un constat de la réalité n'est pas un aveu d'impuissance. Il voudrait qu'on taise toutes les situations qui sont là au niveau de notre justice. Deuxièmement, j'espère qu'il est juriste, et donc il doit savoir que il y a la séparation des pouvoirs. Et ensuite, il doit savoir qu'il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc il ne revient pas au gouvernement de sanctionner des juges. C'est ça. La sanction, elle a été prise une fois. Il faut lui rappeler, lorsque M. Laurent Désiré Kabila a révoqué 275 magistrats, je crois. Vous savez ce qui est arrivé? On est allé jusque à la Cour internationale de justice et on a réhabilité ces messieurs. C'est ça. Donc, de pouvoir parler de la réalité des choses ne constitue pas un aveu d'impuissance. Bien au contraire. C'est même la preuve que nous sommes au courant, que nous sommes conscients de ce qui s'est fait. N'est-ce pas? Et donc, nous devons dénoncer ça. Maintenant, parce qu'il y a séparation de pouvoir, il ne faut pas dire, le gouvernement est incapable de pouvoir sanctionner. Ce n'est pas l'exécutif qui contrôle ou qui sanctionne les judiciaires. De la même façon que l'exécutif ne contrôle pas et ne sanctionne pas le législatif. C'est des petites notions élémentaires sur lesquelles on ne peut pas transiger.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Robert Mbouya. Vous êtes ministre des Affaires foncières. Vous êtes notre invité pour parler de la spoliation des terrains de l'État, comment lutter contre ce phénomène. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans ce studio et surtout de répondre aux préoccupations de nos auditeurs à travers tout le pays.
Merci beaucoup.